L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.
Et nous voilà de retour, Bernard Vacherot. La semaine dernière, vous terminiez en envisageant de démarrer sur Jean-Pierre Bayard, et il mérite bien qu'on lui donne un peu plus de temps que 10 secondes que je vous ai laissé.
Oh, vous êtes formidable. Mais Jean-Pierre Bayard aussi est formidable. Hein. Alors, Jean-Pierre Bayard, d'abord, il faut présenter un peu l'homme, si j'ose dire présenter, parce que c'est vraiment quelqu'un de merveilleux. Bon, Jean-Pierre Bayard a été doyen d'une université privée, disons à caractère particulier, que l'on appelle l'Université de Bretagne. Il a publié de nombreux ouvrages aux éditions d'Angle. Nombreux ouvrages. Mais, entre autres, un que j'ai trouvé extraordinaire et qui s'intitule « Le message des constructeurs de cathédrales aux éditions J'ai lu du Rocher de l'année 1980 ». Alors, Jean-Pierre Bayard est un fin connaisseur de l'architecture médiévale, de son symbolisme et de tout ce qu'il a apporté à la civilisation. Si on conjugue cet ouvrage avec celui de Vergèze, alors on voit l'apport fabuleux d'une part des compagnons, de l'autre des moines. Mais on peut aussi citer, et je vais peut-être vous surprendre, Christian Jacques, dans son ouvrage, j'ai fait une erreur. Jean-Pierre Bayard, La tradition cachée des cathédrales, j'avais bien raison, aux éditions d'Angle, 1990. Eh oui, je me suis gouré dans mon emballement, je me suis foutu dedans. Alors Christian Jacques est l'auteur du « Message des constructeurs de cathédrales » aux éditions J'ai lu, Maison du Rocher, 1980. On ne peut pas non plus ignorer un autre ouvrage qui est celui de collaborateurs, disons, de messieurs Michel Ballard, Jean-Philippe Genet, Michel Rouche, intitulé « Le Moyen-Âge en Occident » aux éditions Hachette supérieure, nouvelle édition 2008. Et puis, comment ne pas citer le sympathique et merveilleux Ken Follett et son livre sur les moines défricheurs et bâtisseurs. Bon, alors, je n'ai fait là que citer seulement quelques ouvrages de référence, il y en a beaucoup d'autres. En littérature, en astronomie, en mathématiques, en géométrie, la géométrie, connaissance considérée comme majeure par les compagnons du devoir ancien, surtout en architecture, en histoire et chronique, les connaissances et les apports des moines et des moniales ont été énormes, absolument colossaux. Ils ont donné cet apport à l'évolution des connaissances. Enfin, leurs enseignements, auprès du peuple comme des notables et des puissants, ont eu une très grande influence. Pour toutes ces raisons, le pouvoir royal ne pouvait pas risquer de trop porter atteinte aux ecclésiastiques et évidemment à leurs biens. Au vu de leur énorme contribution à l'évolution technique, agricole, intellectuelle, artistique, culturelle, médicale, tout ce que vous voulez, de l'Église et de son apport par les moines et les moniales à tous. C'est que là, l'apport n'était plus réservé à une seule élite, mais se donnait pour tous. Par exemple, les paysans qui étaient soignés à l'abbaye bénéficiaient des évolutions médicales des moines et des monastères. Il n'y avait pas que les seigneurs, il y avait aussi les paysans et les autres. Alors un autre aspect, non plus, qui n'a pas échappé à l'administration royale, c'est celui des apports financiers des taxes que payait l'administration de l'Église, les monastères et les moines et les moniales. Car, s'ils recevaient beaucoup, moines et moniales payaient des taxes, lesquelles taxes n'étaient pas un don gratuit, sans quoi ce ne serait pas des taxes. En effet, les terres des églises n'étaient pas soustraites aux charges publiques, elles étaient imposables. Ainsi d'ailleurs, de ceux qui en étaient les habitants. Bon, même si le paysan ne payait pas de taxes pour le roi, l'Église payait des taxes pour le paysan au roi. Hein? En effet, selon le droit féodal et mérovingien, les terres et possessions ecclésiastiques payaient le cens public. Alors le cens, c'est-à-dire le centième, hein, public. En latin, le nom de cens vient du terme census, qui définit la quotité nécessaire à faire payer aux nobles, aux seigneurs, aux moines et moniales. Car, je le rappelle, moines et moniales étaient assimilés à des seigneurs, selon le droit féodal. Hein? Donc, pour l'administration civile, et d'ailleurs selon la volonté des moines et moniales, depuis les débuts du monachisme, rappelons-nous, depuis les débuts en Orient, étaient d'être considérés comme de pieux laïcs, ce qui, au regard de l'administration laïque des finances publiques, les assimilait, au vu de leur possession, aux seigneurs et nobles possédants. Voilà, hein, ça s'est dit en termes un peu compliqués, mais pour résumer, les moines voulant toujours, à l'époque mérovingienne, être considérés comme de pieux laïcs, payaient leurs impôts, comme de pieux laïcs. Voilà. Hein. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut pas dire « Ah oui, mais alors, quel scandale, on paye des impôts, patin couffin. » C'est complètement ridicule. Cela se faisait à toute l'époque mérovingienne, et plus tard encore. Hein. Bon. Alors, pour l'administration publique royale, moines et moniales étaient des seigneurs et donc devaient payer le cens. Cet impôt censitaire avait une origine romaine. Hein, c'est très ancien. Ça avait une origine romaine car il servait à entretenir l'armée romaine. Les Romains de l'Antiquité usaient encore du terme de cens pour parler du recensement. Vous voyez l'origine, hein? Recensement des citoyens devant effectuer un service au sein de l'armée. Alors, ceci nous permet de voir que dans des domaines législatifs et administratifs, l'influence de l'Antiquité romaine a été prépondérante et persistante. Alors, ceci dit, en principe, ceux qui, sur les terres des monastères, cultivaient la terre, donc des hommes, étaient théoriquement en devoir de s'acquitter des contraintes publiques comme le service armé. Je dis bien théoriquement parce que plus tard, nous le verrons notamment à la fin du XIIe, début XIIIe, il y avait des exemptions et il y en avait tellement qu'on se demande si par hasard ce n'était pas la moitié du peuple qui en était exempté. Prenons un exemple simple. Les terres des Templiers, moines soldats. Vous verrez, plus tard, on en parlera des moines soldats. Peut-on dire moine, peut-on dire soldat? Ce n'est pas évident. Mais nous ne sommes pas encore au XIIIe siècle, nous y arriverons. La plupart du temps, les paysans qui étaient sur les terres des Templiers ou des chevaliers de Malte étaient dispensés de taxes, de choses comme cela. Pourquoi ? Parce que une ou deux fois par an, ils donnaient 5 ou 6 jours pour travailler pour les moines Templiers ou les chevaliers de Malte. Cet usage s'est répandu dans beaucoup d'abbayes, où on a préféré avoir une aide au travail de la terre, par exemple, que de faire payer des gens qui ne pouvaient pas payer parce qu'ils n'avaient pas d'argent, les pauvres malheureux. Hein ? Bon, et en plus, ce n'était pas du tout l'idéal des moines. Alors donc, le principe a continué à être observé, mais il a connu des modifications qui, en certains cas, ont pu avoir l'apparence de privilège. Je dis bien l'apparence, parce que c'était pas tout à fait exact, de privilèges accordés par l'administration royale en faveur des ecclésiastiques, comme par exemple les moines, les moniales et les monastères. Surtout à partir du VIe siècle. En effet, les moines, les rois, ont souvent renoncé à leurs impôts sur les terres des monastères, pour les raisons qu'on vient de voir, puisqu'ils constataient le fait que, vraiment, ça apportait au pays d'énormes évolutions.
On aura reconnu la musique d'Il n'y a pas amoureux de Georges Brassens, interprétée par Christian Escoudé. Bernard Vacherot, je vous ai quasiment coupé là, mais il faut bien que vous buviez un verre d'eau quand même.
Ah, hein, merci, c'est sympa. Et oui, l'eau bénite, exactement, que l'on mélange à un peu de Ricard, par exemple. Ouais.
Vous avez le droit de dire des marques comme ça?
Si je ne l'ai pas, je le prends. Bon. Bon. Non, mais c'est bon, l'eau, hein. Ouais, alors, on poursuit?
Ah, mais depuis le début.
Bon. Alors.
Il n'y a même pas eu d'interruption, là.
Bon. Alors, parfois, les rois abandonnaient aux évêques le pouvoir de percevoir le tribut sur leur terre. Et le produit de ce dernier entrait dans le trésor de l'Église. À partir du 7e siècle, donc 100 ans plus tard, un grand nombre d'églises et de monastères obtinrent du roi l'équivalent d'un diplôme d'immunité, un véritable acte soustrayant ces derniers à l'autorité des officiers royaux. Mais ce droit ne concernait pas seulement les biens ecclésiastiques et pouvait aussi viser ceux des civils ou des laïcs. On peut donc dire que durant l'époque mérovingienne des rois francs, qui régnèrent à peu près de 481 à 751 en France, l'Église fut en domaine financier quasiment presque plus puissante que les rois eux-mêmes. Tout en maintenant que la situation économique du pays n'était quand même pas très favorable. Hein. Bon. Alors, cette situation va conduire le rapport Église-État à une nouvelle réalité. Réalité dans laquelle, de par sa situation désormais prépondérante, l'Église a eu un rôle accru à jouer dans un univers où s'entremêlent politique, religion, armée, finances, humanitaire, action sociale, protection des pauvres, soins hospitaliers, etc., etc. Là, tout s'entremêle, hein, tout se va l'un sur l'autre. Toutes ces choses ont été influencées par des situations politiques, sociales et autres, inhérente aux particularités propres à chaque pays ou région mise en cause. Ces trois conceptions émanent de trois sources. Quelles sont ces trois sources? L'influence toujours présente de la sculpture héritée de la civilisation gréco-romaine, puis les traditions des peuples germaniques, et enfin, les apports du christianisme. Alors, de fait, avec ces trois choses, l'influence du christianisme s'étend en tout domaine, y compris les zones géographiques et donc politiques, puis politiquement, ces données changent totalement, et avec elles, les réalités historico-politiques vont être totalement différentes. Un empire est donc, on le voit, en train de mourir, c'est celui du pouvoir romain. Et oui, on va en arriver à un autre élément colossal dans l'histoire du monachisme, c'est l'écroulement de l'empire romain. Bon, alors est-ce que cet écroulement est arrivé tout de suite comme ça, en claquant des doigts? Ben non. Non. Nous avons vu, petit à petit, le délabrement financier, pas pour tout le monde d'ailleurs, nous l'avons vu, mais ce délabrement est lui-même le fruit de toute une évolution. Alors, miné, on peut le dire, miné de partout, en cette fin du 5e siècle, l'Empire romain est exsangue, et son cœur ne bat plus que des dernières palpitations du mourant. Son dernier empereur a eu pour nom Romulus Augustus. Il est né vers 460 et à peine âgé de 15 ans, en 475, le voilà proclamé empereur de Rome à 15 ans. Pensez, guidé et conseillé par son père Oreste, ancien conseiller de l'empereur Jules Népos, il connut un début de règne qui se déroula selon de relativement bons auspices. Mais tout changea du fait de l'entrée en scène politique et militaire d'Odoacre, un officier barbare et de plus dernier fils du roi des Skyrs ou Elurul, peuplade germanique, chassé de ses terres par les Ostrogoths. Odoacre a été obligé de se réfugier en Italie, donc dans le royaume-empire de Romulus Augustus, et bien germanique dans toute son absence de courtoisie, je m'excuse d'être brutal là, hein, bon, et de reconnaissance envers celui qui l'avait accueilli, Odoacre manœuvra si bien contre le roi, enfin l'empereur, envahissant tous les domaines de la vie publique du petit empire romain, qu'il commença par chasser Oreste, père de Romulus Augustus, et se fit proclamer, il s'est auto-proclamé en somme, roi d'Italie par ses soldats le 23 août 476. Alors, chassant Oreste, manu militari, il l'obligea à se réfugier à Pavie, puis à Plaisance, où il fut fait prisonnier et décapité le 28 août 476. Odoacre et son armée ont bien pris Ravenne, où s'étaient réfugiés Romulus Augustus et tous les siens. Il fait prisonnier Romulus Augustus, et là, mélange de cynisme et de mépris, il laisse la vie sauve à Romulus Augustus ainsi qu'à sa mère, mais il contraignit Romulus Augustus à rédiger lui-même de sa propre main sa lettre de démission du pouvoir impérial. Lettre qui fut expédié au Sénat romain, qui l'entérina, ne pouvant pas faire autrement. Oui, quand on est sous la force des armes, comment faire autrement que d'entériner ce qu'on exige avec les armes?
Et alors, un peu comme l'Empire romain, notre émission touche à sa fin.
Et voilà.
On va devoir en reparler mardi prochain. Merci Bernard Vachereau.
Merci, avec plaisir.
L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vachereau, curé de Caïlus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.